toda palabra, con toda sonrisa, con toda mirada.
À l'air libre, Pascal Jourdana, une série de rencontres promenades, de balades littéraires et de conversations à bâton rompu avec des écrivains, des éditeurs, des traducteurs ou tous ceux qui s'intéressent aux livres et à l'écrit pour réfléchir, flâner ou rêvasser en toute liberté.
À l'air libre s'installe en 2007 sur le Vieux-Port de Marseille pour son démarrage. En 2008, on recommence au FID Marseille, au Festival International du Documentaire, pour une série d'émissions avec des membres de jury des différents prix et des réalisateurs invités. Fil rouge de cette série, les relations particulières que ces personnes entretiennent à cette articulation écrit, image, cinéma, livre, mot, écran. Notre premier invité aujourd'hui pour ce jour d'ouverture du FID Marseille est Thomas Bauer. Bonjour Thomas. Bonjour. Bauer. Vous êtes diplômé en arts plastiques, vous avez obtenu un diplôme à Cergy-Pontoise en 1994 en arts plastiques, c'est ça? Ouais. Vous avez réalisé 3 films avant celui dont nous avons parlé et qui est présenté au FID en sélection française. Ouais. Vous avez réalisé, je les ai là, alors il y a un titre très long pour un film très court, Soudain soulever la poêle au-dessus de sa tête, Allumer comme possible la cigarette au brûleur, c'est ça?
Voilà.
1998. En 2002, Hear Mud in Your Eye, un peu plus long, 37 minutes, on va peut-être parler un petit peu plus longuement de celui-ci. Et puis René O, en 2005, mais qui a été diffusé dans les salles en février 2008, d'après ce que j'ai compris.
Oui, sorti en salle cette année.
Voilà, alors il faut peut-être parler un tout
qui
petit peu plus
fort. Qui est sorti en salle cette année.
Voilà, parce que je ne vous entendais pas. sorti en salle cette année et qui est le portrait éclaté, là aussi, je dis là aussi parce que apparemment le précédent fonctionne un petit peu de la même façon, de René Orduna, qui est témoin de sa propre existence durant les années 70-80 aux États-Unis, des années que vous avez connues par votre voyage, une personne, et des années que vous avez connues par votre propre voyage aux États-Unis en 97-98, c'est ça?
Oui, la prise de contact avec René, c'était en 97-98, mais le tournage est venu bien après.
Alors, en 2000, vous avez cofondé un projet, le projet d'ITER, pour la réalisation et la diffusion de films et d'éditions d'art. Films et éditions, éditions papier, éditions...
Oui, catalogue, pas livre.
Livre, ouais. Bon, ça nous fera un lien supplémentaire pour cette rencontre. Et vous êtes professeur invité également dans différentes écoles d'art, en particulier à Toulouse.
Oui, notamment à Toulouse.
En 2007, vous avez réalisé un atelier de création radiophonique, alors là encore en rapport avec l'écriture, à France Culture, Capitaine par exemple.
Voilà, qui est un des éléments du projet.
Voilà,
alors. Dont le film est un deuxième.
Voilà, donc, alors un élément ou une prolongation, comment est-ce que vous concevez justement ce double visage de ce même titre,
hein? Pour moi, c'est un projet de table. Et à partir de ce projet de ce travail de table, sont émergés trois éléments. C'est-à-dire une architecture qu'on a co-dessinée avec deux architectes, Raphaël Perron et Laurent Charpin. Une émission de radio qui a été donc diffusée en début d'année et qui a été réalisée juste après le tournage du film. Et le film qui vient d'être fini.
L'architecture, comment est-ce que vous l'intégrez avant qu'on revienne au film lui-même et à ce projet? Comment est-ce que vous l'intégrez?
L'architecture est présente dans le film.
Oui, on voit, c'est un élément architectural. Pour l'instant, on a vu, parce que le film est présenté, n'a pas été encore présenté officiellement. Hein, on a pu voir
une copie de
travail.
Non, il n'est pas projeté aujourd'hui.
Ouais.
Non, ça commence que demain, pour Capitaine, par exemple.
Mais on voit cette architecture...
Elle apparaît beaucoup en intérieur dans le film et un petit peu en extérieur. Mais c'est un projet qui peut être montré par ailleurs de manière totalement indépendante, comme l'émission de radio et comme le film. Et même, je tiens absolument pas qu'ils soient regroupés.
Oui. C'est des éléments séparés, mais qui, pour vous, se concentrent.
C'est des éléments qui avaient un lien quand je travaillais dans mon bureau. Mais je tiens qu'ils aient une. des parcours séparés.
Alors, ce film, cet atelier de création radiophonique sont établis à partir d'un texte, d'une nouvelle de Joseph Conrad, le compagnon secret.
Oui, c'est ce Pat Scherer à l'origine, en anglais.
En anglais, voilà.
Il est écrit en anglais.
Il est écrit en anglais. On peut le trouver dans différentes versions en français et différentes traductions d'ailleurs.
Oui, il y en a au moins quatre.
Ouais. Voilà. C'est... Conrad est très traduit, il faut dire que c'est d'une simplicité apparente qui doit poser pas mal de problèmes aux traducteurs.
C'est extrêmement compliqué, je crois. Voilà. Oui.
Alors, on est sur le vieux port de Marseille. C'est un drôle de hasard, enfin, je ne sais pas si c'est un hasard, mais c'est quand même là que Joseph Conrad, venu de Pologne, embarque pour la première fois.
Pour la marine anglaise.
Ouais. Voilà. Alors, d'abord dans la marine française, puisqu'il a fait ses armes de pilotin ici sur le vieux port, entre le vieux port et le phare du Planier. C'est quelque chose que je vous apprends, mais
c'est après, c'est bon, vous avez raison.
Et après, il s'est engagé dans la marine, ici c'était la marine marchande, il s'est engagé dans la marine anglaise. Mm-hmm. Plus tard, donc c'est un récit de mer qu'on ne voit pas trop apparaître d'ailleurs, la mer, dans votre film. Mais je voudrais commencer par ce texte, évidemment, et ce personnage. Pourquoi vous êtes intéressé à cette nouvelle particulière, Le Compagnon Secret de Conrad? Comment vous l'avez découvert, peut-être, déjà?
Je l'ai découvert sur le conseil d'une amie. Et en fait, j'avais commencé ce projet qui s'appelait pas encore Capitaine, par exemple, et qui était un projet tout à l'origine où je voulais documenter le passage de l'acteur entre guillemets civil au rôle. Et donc je cherchais le texte qu'il allait pouvoir lire pendant le film.
Ouais.
Et voilà. Et c'est comme ça que je suis tombé sur The Secret Scherer. Et j'ai choisi ce texte quasiment immédiatement quand je l'ai lu, parce que c'était une possibilité d'épaississement du projet par le texte. C'est-à-dire que le texte offrait une version du projet que j'avais imaginé, mais je dirais verticalement, alors que moi j'avais envisagé le projet horizontalement. Et du coup, par contre, ça m'a demandé beaucoup de travail supplémentaire à partir de là, parce qu'il fallait en effet que je me confronte au texte de Conrad, qui est un texte d'apparente simplicité, mais qui a une structure en fait très 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 complexe.
Alors c'est souvent le cas d'ailleurs, hein, chez Conrad, on l'a beaucoup souligné pour les spécialistes de Conrad, cette construction très particulière, une multiplication des récits, des narrateurs, un découpage temporel très complexe, parce que le récit se donne au lecteur, à l'auditeur, de façon éclatée et pas du tout narrativement linéaire comme beaucoup d'autres récits de son époque, en tout cas. Est-ce que c'est aussi ça qui vous a intéressé? Parce que j'ai dit tout à l'heure que pour les précédents films, vous utilisez d'une certaine façon cette narration éclatée aussi. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a touché?
Dans Irma du New Rise, oui. J'utilisais, on peut dire, un éclatement qui était lié au montage alterné. Ce qui n'est pas le cas de René, puisque René est un plan-séquence artificiel, je dirais. C'est un faux plan-séquence. Mmh. C'est une illusion de plan-séquence. Et pour la partie... pour la deuxième partie, la première partie.
On parlait de la narration, ce sont des gens qui
Ce qui m'a intéressé dans Conrad, dans cette nouvelle, on pourra reprendre après sur le lien avec les autres projets, en fait, c'est le... quoi, Conrad est un habitué de rebaptiser les lieux, les gens,
oui,
dans ses romans. Or, dans The Secret Scherer, qui pourtant est une nouvelle assez... quoi, du début de sa carrière d'écrivain, il procède en rebaptisant, il rebaptise le cul-de-sac, le Sephora, mais il procède aussi du débaptême. C'est-à-dire que, en fait, on est sur un bateau qui n'a pas de nom, qui est commandé par un capitaine qui n'a pas de nom, et qui projette la vision d'un double qui lui a un nom. Et c'est ce qui fait exister et le lieu et les questions que se pose ce capitaine. Donc on est face à un espace fantôme. Or la relation à mon projet sur le suivi d'un acteur, c'était que je cherchais une réalité de palier. C'est-à-dire que j'imaginais un acteur qui venait de finir d'interpréter un rôle sur une scène, qui jouait cette pièce pour la dernière fois, et que j'allais le récupérer, moi, au moment où il allait descendre de la scène. Que le début de mon projet, c'était ça.
C'est les premières images du film.
C'est la loge. Voilà, on retrouve la loge. Dans la loge. C'est devenu le moment où il... C'est devenu un projet plus quoi. C'est devenu une scène plus complexe, la loge, parce qu'en fait, c'est évidemment ce moment-là, mais on ne le comprend que parce que... Et c'est pas si simple à comprendre. Il a les cheveux méchés, suivant des techniques qu'on utilise par rapport à la lumière au théâtre. Et en fait, la coiffeuse vient réuniformiser ses cheveux, comme c'est une opération pour qu'il puisse retourner dans le quotidien, dans la vie civile.
C'est le démaquillage, en fait. C'est comme le débaptême.
C'est un démaquillage à la couleur.
Oui. Alors, vous avez signalé dès le départ que vous cherchiez un texte qui devait, pour votre projet, être lu, pour suivre votre projet sur l'acteur.
Lu, c'est pas vraiment le bon mot, d'ailleurs. Non, parce que c'est... Oui, parce que je cherchais à... Quoi, le pari était que l'acteur apprenne son texte au fur et à mesure du film. Et ça s'est modifié, finalement. Au début, je voulais qu'il n'ait pas du tout le texte au démarrage du film. Et puis finalement, ça s'est avéré plus intelligent qu'il ait quand même déjà fait quelques lectures. Donc il n'avait pas le texte chez lui. Mais il venait chez moi et on faisait des enregistrements des lectures.
Alors... revenons à cette façon conradienne de narrer une histoire, de raconter avec des angles multiples cette histoire. Là, vous avez aussi des personnages multiples qui disent le texte de Conrad. Mm-hmm. Un autre silencieux aussi, d'ailleurs, je crois.
Oui, Christophe.
Voilà. Comment est-ce que... Vous avez d'une certaine façon déconstruit le texte de Conrad pour reconstruire cette narration sous forme de texte lu. Ou est-ce que c'était déjà présent ?
Ça peut sembler une déconstruction, mais en fait, c'est-à-dire que j'ai voulu réintroduire le fait que cet événement est un événement préexistant à la nouvelle. C'est-à-dire qu'en fait, Conrad s'inspire de la fuite du second du cul-de-sarc.
Oui, il faut raconter l'histoire un peu, parce que ça part effectivement d'un événement. Il y a une histoire dans ce contexte.
Suite à une tempête en mer, le cul-de-sarc se retrouve au mouillage. Pendant la tempête, un homme meurt, et le second est accusé du meurtre de ce marin. Et donc est mis au cachot, et apparemment le capitaine se débrouille pour le laisser fuir à la nage pour faire rejoindre la côte. Donc Conrad en fait part de là et imagine que pendant cette nage, ce second croise un autre bateau, et là toute l'histoire recommence, mais dans l'intimité de la cabine. Et donc quand on imagine que le cul-de-sarc est avant le Sephora et historiquement et dans la nouvelle elle-même, avant le bateau fantôme et la côte, en fait on est dans un espace fantôme, un palier où tout recommence, mais dans l'intimité de cette cabine. Et donc la boucle, la notion de boucle est déjà introduite, et donc la notion de répétition du texte aussi. Donc en fait c'est intrinsèque au texte de Conrad déjà, et ce qui peut paraître être une déconstruction par rapport à aux repères qu'on a dans le cinéma ou la littérature, je dirais plus contemporaine, que celle de Conrad est en fait déjà contenue dans le texte. D'ailleurs, il y a même dans le texte, il joue déjà de répétitions, de dialogues.
Oui.
Vous l'avez dit. Alors, c'est pas poussé comme c'est poussé chez d'autres auteurs d'après-guerre, mais c'est déjà quelque chose qui est présent.
Vous l'avez vu, lu, relu de nombreuses fois ce texte.
Moi, j'ai lu toutes les traductions déjà.
Oui.
Et ce qui m'a permis d'arriver à le lire en anglais aussi, parce que j'ai un anglais d'autodidacte, donc c'est pas...
Comme Rob, finalement.
Oui, c'est vrai.
Alors, il y a ce thème, effectivement, de la répétition. La répétition, c'est d'abord le double aussi, hein, puisque c'est un des thèmes de cette nouvelle où il y a ce marin en fuite et le capitaine... Qui se retrouve comme une sorte de fantôme de lui-même, d'une certaine façon, de double. Et puis c'est un texte qui approche la folie aussi. Donc on est dans ce monde-là qui est qui a des références par rapport à la littérature fantastique, une certaine ambiance un petit peu étrange. Qu'on peut connaître de cette époque-là, qu'aborde pas trop en général Conrad, c'est peut-être assez inhabituel ça chez lui. Ces nouvelles sont toujours...
Disons que la particularité de cette nouvelle par rapport à beaucoup, c'est que Conrad les range dans les nouvelles de calme plat. Il y en a quelques-unes comme ça, il y a La ligne d'ombre, Le compagnon secret et une troisième, mais je ne me rappelle plus laquelle. Et donc on est loin des tempêtes, des typhons.
Oui.
En fait, c'est déjà passé, on est dans le stade suivant. Donc en effet, il s'attache davantage à l'état psychologique de ce capitaine qui n'a même pas vécu la tempête, puisqu'il prend. Le capitaine fantôme arrive sur le bateau, c'est le calme plat. Et il ne sait même pas s'il arrivera à faire démarrer ce bateau, et c'est son premier commandement. Donc, et ce dédoublement, en fait, est d'une certaine manière le processus qu'il développe pour arriver à prendre possession du commandement du bateau. C'est un dédoublement pour... Il y a évidemment une quête de liberté, mais il y a aussi une quête de responsabilité, je dirais, en même temps. Donc ces deux choses s'opposent dans la psychologie du capitaine. Et c'est le parallèle aussi que le film fait par rapport à l'acteur, c'est-à-dire que c'est une quête de liberté par rapport à la maîtrise d'un texte et en même temps de devoir le porter, parce que c'est pas rien à porter.
Il y a une phrase qui revient plusieurs fois justement dans le texte, qu'on entend aussi dans le film, c'est cette... Enfin, il me semble, parce que je confonds maintenant le texte et les images et votre lecture de ce texte, c'est le fait que le capitaine est le seul à avoir ce double, comme effectivement, d'une certaine façon, l'homme est le seul peut-être à voir l'acteur, ou l'acteur est le seul à voir l'homme.
Dans le film, il n'y a pas de... Dans le livre, il n'y a que le capitaine qui voit le double, puisque Conrad veut introduire que peut-être tout ça n'est qu'un fantasme du capitaine. Mais si on suit, entre guillemets, la petite histoire du livre et qu'on lit ça rapidement, en fait, c'est parce qu'il le cache. Et beaucoup d'intrigues viennent de toutes les stratégies qu'ils utilisent pour se cacher dans cette cabine qui décrit comme tellement petite qu'on ne peut pas y faire tourner un chat par la queue comme ça. Et donc oui, on ne sait jamais dans quelle réalité on est, si on est dans celle d'un capitaine lucide qui dissimule un homme dans sa cabine, ou si... c'est de l'ordre du fantasme total. Le film joue le parti pris que c'est un fantasme.
Alors
En fait, le double n'est attribué à personne et d'une certaine manière un peu... attribué à tout le monde. C'est-à-dire que c'est l'acteur qui porte le texte de Conrad, parce qu'en en fait, il n'y a que lui qui porte le texte de Conrad, quasiment, qui attribue ce rôle de double en fonction des situations. Et qui se l'attribue aussi. Il peut se l'attribuer, mais comme il peut l'attribuer au second rôle porté par Christophe Fives, pas vraiment à Jean-Claude Bouvet qui est plus dans une situation de vieux capitaine du Cutissard, on va dire, ou du Sephora. Et voilà.
Alors, l'espace fantôme ce calme plat où vous situez à la campagne. Dans une clairière au milieu d'une forêt, dans un espace.
C'est pas au milieu d'une forêt, c'est en bord de forêt, et ça donne sur une vallée. C'est-à-dire, c'est la vallée de Nevers. Mmh. C'est donc l'ouest de la Bourgogne. Et après, le film se finit dans une zone très rurale, mais qui est une ancienne zone industrielle, puisque c'est une zone d'extraction d'or.
Ouais.
Dans la Creuse.
Oui, il y a un paysage très
ravine. C'est un paysage de remblais de terre brûlée par les fours.
Pourquoi vous avez fait disparaître la mer?
Je ne l'ai pas fait disparaître, je me suis affairé à la faire apparaître. Parce que je n'étais pas dans une situation d'adaptation du film. Moi, mon projet était de faire porter un texte par un acteur, pas de faire une adaptation de Conrad. Et donc, si on arrivait à créer cette sensation de calme plat, c'était gagné. Aller se mettre en bord de mer, c'était pas du tout gagné qu'on crée une situation de cet ordre-là. On aurait pu illustrer les années 1902 ou 4 dont parle Conrad, mais on n'aurait pas fabriqué de climat comparable à celui de la nouvelle.
De toute façon, je crois que c'est absolument pas votre projet d'illustrer ce texte ou
non,
quoi
non.
que ce soit de l'ambiance.
Non, c'est
de l'époque.
C'est un croisement entre un texte, un projet et... Disons que le croisement avec la nouvelle, c'est une chance d'épaississement du projet, c'est ce que je disais au début.
Il y a un traitement de la parole et du silence très fort dans le texte, puisque ce compagnon secret est caché aussi, non pas seulement visuellement, mais auditivement, je dirais, puisque on peut les entendre. Hein. On pourrait les entendre discuter dans la cabine, donc il y a beaucoup de chuchotements. Mm-hmm. Ça commence aussi par des chuchotements, d'ailleurs, dans le film.
Là, ça commence par un dialogue avec la coiffeuse.
Oui.
Qui est bref.
Mais... Très bref. mais là, on est encore dans cet entre-deux, peut-être.
Ouais.
On n'est pas encore complètement dans le projet.
Ouais.
Il est aussi, à un moment, question de la surdité... prétendue surdité.
La scène dans la voiture.
Voilà, la scène dans la voiture qui fait aussi référence à une surdité évoquée, qui est une scène un petit peu plus amusante d'ailleurs dans Le Compagnon Secret. Peut-être qu'on pourrait terminer par ça, par ce rapport, non pas cette fois entre le texte et l'image, on va dire, pour simplifier, mais entre la parole et le silence, ce que ça représente pour vous et l'importance que ça peut avoir dans votre travail et dans ce film en particulier.
Dans ce film en particulier, c'est en fait l'avant-dernière scène du film. Et ce qui était important pour moi, c'était justement dans le croisement de l'acteur principal et de Jean-Christophe Bouvet. Comme tout le film joue comme ça d'un chuchotement haut, je dirais, c'était la possibilité tout d'un coup de changer de type de diction. Et c'était offert par Conrad d'une certaine manière, parce qu'il y a en effet cet épisode un peu cocasse, ouais. Où le double est caché dans la salle de bain ou dans un placard, et où donc le capitaine, à la recherche de son meurtrier évadé, visite le bateau fantôme et s'entretient avec le capitaine à l'intérieur même de la cabine où est caché le double. Donc le capitaine fantôme, fin d'être malade et d'avoir été malade et d'avoir perdu Louis, pour faire parler le capitaine plus fort pour que le double puisse entendre ce qu'il raconte. Et donc c'est une scène, moi, que j'ai rejouée dans le plan dans la voiture à la fin.
Oui.
Et c'était aussi un moyen que tout d'un coup l'acteur principal reprenne le texte de Conrad à Jean-Christophe Bouvet. C'est-à-dire que d'une certaine manière, il l'invite dans la séquence précédente à prendre en charge le texte de Conrad et à dialoguer avec lui, ce qui est le début de la scène. Et après, il reprend l'intégralité de la scène pour lui, dans la fin de la scène. Et Jean-Christophe Bouvet a disparu de la voiture.
C'est une sorte de transmission.
Oui, et d'appropriation.
D'appropriation, ouais. D'appropriation, oui. C'est double mouvement.
Voilà.
D'autres projets ? Je sais que c'est un petit peu difficile de parler d'autres projets quand on est en train de présenter un nouveau film, mais je me dis vous n'en avez pas fini avec l'écrit et les rapports entre l'écrit et votre travail.
Non,
lecteur.
pas tant que ça. Quoi, quand je peux, je suis ravi de le faire, mais pas tant que ça. Je peux lire beaucoup, comme je peux totalement ne plus arriver à lire du tout. Donc, c'est un rapport complexe que je joue. Et non, j'en ai pas fini avec l'écrit, c'est sûr, mais je sais pas si une relation à un texte d'auteur comme ça se renouvellera, en fait, forcément de manière aussi importante. Quoi. Le texte dans le film est très important. C'est souvent, quoi, ce qui est commun à tous les films, c'est le rapport à la mémoire, en fait. Donc l'écriture est forcément une des manifestations de la mémoire.
Ben, merci beaucoup Thomas Boer, bonne chance à ce film, bonne projection, bon festival.
Merci.
Con toda palabra, con toda sonrisa, con toda mirada, con toda caricia, me acerco al agua, bebiendo tu beso.